Nous sommes Sanhédrin, Tzadik Dalet, quatre lignes avant la fin. On est dans la sugya de Sanhérif avec le roi Hizkia, la fameuse histoire, comment l'empire assyrien s'écroulait par un miracle, comme est marqué dans la Tanakh, dans le livre de Malachim, dans le livre de Yeshaya. D'abord, Sanhérif a exilé les 10 tribus. Et après, ils sont pris à Yerushalayim. Ils voulaient abattre Sanhérif et le Beth Amikdash. Ils voulaient abattre le roi Hizkia, le Beth Amikdash, exiler la population de Yerushalayim. Ils ont encerclé la ville et le Malach, il est venu. Il a détruit toute l'armée assyrienne. Cette histoire, c'est bien à le lire dans le livre de Yeshaya, dans le livre de Malachim. Et le texte, il dit que l'ange est venu. Il a brûlé toute l'armée. Alors, on va lire le texte. On est dans quatre lignes avant la fin. La Gemara est en train de citer. Elle est en train de citer le verset dans le Tanakh. Tachat kevodo. Tachat kevodo. Alors, le texte dit Yishlach Adon Hashem Tzvakot Mishmana Vrazon. Ça, on l'a déjà vu hier. Dieu, le patron, il va envoyer Mishmanav. À ceux qui sont 8 noms, on avait dit, Yeshaya, Hizkiel avait 8 noms, Sanhérif avait 8 noms, ceux qui sont riches, c'est-à-dire Sanhérif va envoyer raison de la pauvreté, et Tachat Kevodo, et en dessous de son honneur, Yikad, Yikod, Kikod, Esh, brûler, va brûler comme brûle le feu. Ça veut dire quoi? Sous son Kavod. Sous son Kavod, qu'est-ce que c'est le kavod? Soit le kavod, c'est le corps de l'homme. Soit le kavod, ce sont les habits. Si on va dire le kavod de l'homme, c'est le corps, et il a brûlé ce qui est en dessous du corps, c'est-à-dire l'âme qui est à l'intérieur. Si on va dire le kavod de l'homme, ce sont les habits. L'habit fait le kavod, l'honneur. Un homme sans habit, il n'a pas d'honneur, c'est comme un animal. Le fait que l'homme il est habillé avec des habits, ça donne du kavod à l'homme, du respect. En dessous du respect, il y avait le feu qui brûlait, c'est-à-dire le corps se carbonisait. Donc il y a 2 traductions, où leur corps était carbonisé et les habits sont restés. Soit que l'intérieur du corps était carbonisé, l'extérieur du corps est resté. C'est une espèce de comme quelqu'un qui touche 5000 volts et l'intérieur est brûlé, le corps y reste, et des fois le corps aussi est carbonisé. Le tachat kevodo yikad yikod kikod esh. Amar Rabbi Yochanan, il a interprété tachat kevodo velo kevodo mamash. Ceux qui ont dessous des habits à brûler, les corps ont brûlé, velo kevodo mamash, mais pas l'habit. Où le pshat il est, la neshama et pas le corps. Yahad Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yochanan, parle les mane mechabdotai. Il appelait ses habits ceux qui me donnent de l'honneur. Rabbi Lazar amar tachat kevodo mamash. Non, non. Il faut, kevodo c'est le corps et en dessous du corps c'est l'âme. C'est l'âme qui a brûlé et pas le corps. Kisreifat bnei Aaron. Toute cette armée a été décimée de la même façon que les enfants d'Aaron. Les enfants d'Aaron, il marquait un feu est descendu du ciel et il a brûlé les enfants d'Aaron. Mais après le texte, il dit « Attrapez Nadav Avihu et transportez Bechutonotam avec leurs habits et faites-les sortir pour l'enterrer. » Donc le corps était toujours là. Donc c'est son âme qui a... Quand pour les enfants d'Aaron, c'était que l'âme qui a brûlé, mais le corps est resté, comme ça, toute l'armée, le corps est resté, ce n'est que l'âme qui a brûlé. En quoi ça change? En quoi ça nous intéresse à savoir si le corps était brûlé ou pas? Vérité, hier on avait vu qu'il y avait un projet d'Hachem que Sanhérif sera Gog ou Magog et que le roi Hizkia sera Mashiach. Et dans l'hypothèse que Sanhérif sera Gog ou Magog, Le prophète, il avait dit que leur corps sera enseveli pour l'honneur. Gog et Magog, il aura un droit à l'enterrement. Pourquoi? Parce qu'il descend de Shem. Gog et Magog descend de Shem. Et Shem, il a couvert son père. Ou peut-être Gog ou Magog ou Magog. Mais Tiras, c'est peut-être, je ne suis pas sûr si c'est de Shem. Gomer ou Magog, il descend de qui? Une seconde. Gomer ou Magog. Venez Yefet. Gomer ou Magog. Non, Magog, c'est Yefet. Et Yefet, il aidait Hachem de couvrir Noach. Le fait qu'ils ont respecté le corps de Noach, ils l'ont couvert. C'est pour ça que l'armée de Gog et Magog aura le droit que leur corps ils seront ensevelis après la destruction de l'armée de Gog et Magog. Et Kanhéré Sanhérif avait le même droit. C'est pour ça, lui, il dit que le corps, il est resté. Donc, on pouvait les enterrer. C'est un trou d'être enterré. Kanhéré, pour les Neshama, c'est important que le corps, il reste Kayam. Et ceux qui respectent le corps de l'homme humain comme Noach, son corps aussi, il sera respecté. Alors, Tana, on a la dernière ligne de la Gemara. Tana Mishmeid Rabbi Shua ben Korcha. Paro Shechirev Ba'atzmu. Paro, il a parlé mal de Dieu personnellement. Nifra Kadesh Baruch Hu Mimeno Ba'atzmu. Donc, quand Dieu l'avait puni, il avait puni Dieu personnellement. Mais Sancheriv Shechirev Alidei Shaliach. Sancheriv, quand il parlait mal de Dieu, il n'a même pas voulu que lui-même s'occupe de ça. Il a envoyé un délégué. Et quand l'homme insulte quelqu'un d'autre avec un délégué, c'est encore plus honteux. Le roi ne veut même pas s'occuper. Il envoie un petit serviteur pour insulter Chizkia, le dieu des Juifs. Il a envoyé un petit serviteur à Kadesh Bochum, mais Nifra Kadesh Bochum, mais non, elle est des Shliach. Donc, Kadosh aussi, il a dit, toi, Sancheriv, tu te fatigues même pas, toi, personnellement, tu envoies un petit truc, moi aussi, je vais te liquider par un petit malach. Je ne vais pas m'occuper de toi, de ton cas, moi, personnellement. Paro d'Echtiv Bei, c'est pour eux, il est écrit, Mi Hashem Erashesh Mabekolo, mais qui est-ce Dieu pour que j'écoute sa voix? Donc, Paro, il s'est efforcé quand même lui-même, il n'a pas donné un petit affaire, lui-même, il l'a fait. Nifra Kadesh Bochumemeno Batsmo, Dieu s'occupait de lui-même de son cas. Dieu, il a remué les Égyptiens au milieu de la mer, c'est Hachem lui-même. Donc c'est un scout pour l'armée de Paro qu'Hachem s'occupe d'eux. Octive le pasuk dit, Darachta Bayam Susecha, tu as chevauché avec ton cheval dans la mer. Sancheriv d'Ichtiv Bey. Et Sancheriv, il est marqué, Beyad Malachecha Cherafta Hachem. C'est à travers la main de ton délégué que tu as insulté Dieu. Chutzpah, il envoie un délégué. Nifra Kevok Homeno Deshliach. Kevok aussi lui avait payé par un délégué. Le texte dit, Vayeitse Malach Hashem, l'ange de Dieu est sorti, pas Dieu. L'ange de Dieu est sorti. Vayach, Bemachane Ashur Mea Ushmonim Vechamisha Elef. Il a frappé dans l'armée de Sanhérif, Meya 180, 80, Bechamisha 5, 11 000. 185 000 soldats y sont morts pendant cette nuit. Ben, ça peut nous expliquer un petit peu ce qu'on dit toujours la nuit du Seder. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est venu, Bechvodo Ba'atzmo, Anivelo Malach, Anivelo Shaliach, Anivelo Sarav, Anivelo Shaliach, il a fait le coup de Makat Bechorot. Qu'est-ce que ça change si c'est Hachem lui-même ou par un Sheliach? On voit ici dans la Gemara que c'est un plus grand sroute pour un homme qu'Akadébo Bechvodo le punit que si c'est un Sheliach. Un Sheliach qui punit, c'est encore plus déshonorant. Donc, Paro, au moins, il avait le sroute qu'Akadébo s'occupe de son cas personnellement. Rabbi Hanina bar Parami, il a posé une contradiction. Il est marqué dans le verset Merom Kitso. Le texte dit, je lis ici le verset à côté dans Yeshaya, Biad avadecha cherafta Hashem, travers la main de ton serviteur, tu as insulté Dieu. Vatomer, tu as dit, qui c'est Sancheriv? C'est Dieu qui parle vers Sancheriv. Vatomer t'a dit, Rov Rikhbi, avec tous mes cavaliers, Ani Aliti, Merom Harim. Je vais monter Merom Harim, dans le plus haut des montagnes. Yarkete Levanon, le côté de Levanon. Levanon, c'est le Beth Amikdash. Vechot Komat Arazav. Et je vais couper, je vais détruire Komat Arazav, ces cèdres qui sont si hauts. Le Beth Amikdash était construit avec des cèdres. Mivchar Broshav, les meilleurs de ces arbres, Vavo Merom Kitso. Je viendrai à la hauteur, la fin de ces hauteurs, Yahar Carmelo. Donc, je vais monter jusqu'en haut de la résidence de Dieu. Vektiv, mais il y a un autre verset. Qu'est-ce que dit l'autre verset? Et une fois, c'est dans Melachim, une fois, c'est dans Yeshaya. Le texte, il dit Merom Harim, Vavo Melon Kitso. Dans Melon, Melon c'est l'autel. Une fois Melon dans l'autel de Dieu, et une fois dans la hauteur de ce que Dieu il habite. Alors, c'est quoi la hauteur? C'est quoi la simple résidence de Dieu, le simple Malon? Le simple Malon, c'est le Beth Mikdash Yerushalayim. Et Merom Kitso, ça c'est le Beth Mikdash au ciel. Alors, qu'est-ce qu'il voulait faire, Sanhérif? Il voulait détruire quel Beth Mikdash? Celui sur terre ou celui qui est au ciel? Une fois dans Yeshaya et dans Malachim, il y a un mot, c'est le même verset, mais un mot est différent. Alors la Gemara commente. Amar oto racha. Ce racha, Sanhérif, il a dit, Mitrila, au début, Acharif dira Shelmata. Au début, je vais détruire l'habitation en bas, c'est-à-dire le Beth Amidah sur terre. Et plus tard, Acharif dira Shelmala. Après, je vais détruire l'habitation au ciel. Quel est le sens de cette Gemara? L'habitation terrestre, d'accord, nous pouvons comprendre avec notre logique. Il va amener ses soldats, il va mettre le feu sur le Beth Amikdash Yerushalayim. On peut comprendre. Mais il avait un autre projet. Une fois que j'aurai fait ça, je vais détruire le Beth Amikdash au ciel. C'est quoi? Comment tu vas détruire le Beth Amikdash au ciel? Comment tu penses monter dans le Beth Amikdash du ciel? C'est un peu laid. Et c'est la même question, en vérité, elle est aussi sur Nimrod. Nimrod, il a voulu faire un tour pour faire la guerre contre Hachem au ciel. Comment tu veux faire la guerre contre Hachem au ciel? C'est quoi le sens? Bon, on peut dire, le pshat, il est qui va faire d'une sorte que pas seulement physiquement le Beth Amikdash en bas est détruit, mais je vais détruire toute la émouna, toute la foi en Dieu. Je vais changer toutes les idées que les gens ils ont vis-à-vis de Dieu. Je vais complètement rendre athée toute la population du monde afin que Dieu n'a plus aucun rapport avec ce monde. Comme s'il a atteint le ciel. Ou il y a ici une autre chose cachée que je ne sais pas. Amar Rabbi Shua ben Levi, Maï Dichtiv. Qu'est-ce que c'est ce qui veut dire? Ata, maintenant, c'est le discours de Sanhérif. Le prophète, il reprend les paroles, le Sanhérif. Ata, maintenant, Ami Balade, Hashem, Aliti, Alamakom, Azel, Ashrito. Est-ce que c'est sans la permission de Dieu que je suis monté ici vers cet endroit, Yerushalayim, pour la détruire? Hashem, Marelai, Dieu m'a dit, allez, El Haaret, Sezot, Vashrita, monte vers cet endroit et détruis. C'est un chidush atzum, et c'est un grand yesod, et on voit ça souvent, jusqu'à aujourd'hui, que le roi antisémite, des gens qui ne supportent pas les juifs, ils disent, moi je viens contre les juifs de mon propre chef, sans permission de Dieu, c'est bien Dieu qui m'a demandé de faire ce que je fais. Dieu m'a permis, Dieu m'a demandé de venir au Shaim pour détruire. Comme ça, ils disent Sanhérif. Quel est le pshat? Il est fou. Il parle pour parler. Dieu t'a dit de détruire Yerushalayim. D'où il prend ça? Qui a dit ça à Sanhérif? Et Sanhérif n'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui le disent. Les chrétiens, ils ont toujours dit ça. Les musulmans, ils ont toujours dit ça jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qu'on vous a fait à vous, c'était la volonté de Dieu. Dieu nous a demandé. Toujours il dit ça. Et quoi? Stam, ils parlent dans l'air. Ils doivent s'accrocher à quelque chose. Bien sûr, ils s'accrochent sur quelque chose déformé. Toujours ils déforment la parole de Dieu. Oui, c'est les spécialistes, ceux qui veulent être cruels, ils trouvent dans la Torah la justification. Ceux qui veulent voler, ils trouvent dans la Torah ses justifications. Ceux qui veulent faire mal à un juif, ils trouvent dans la Torah la justification. Il faut pervertir les paroles de Dieu, il faut pervertir les paroles des prophètes. Et après, on trouve une justification pour tous les crimes. C'est comme ça. Les gangsters, ils ont leur verset de la Bible avec. Faut pas croire. Oui. Si on vit dans un monde où la Bible est une référence, et on trouvera dans la Bible la référence de ce que l'homme y veut faire. Citer des citations de la Bible. De la religion ne veut pas dire qu'on est religieux, ni qu'on se suit. On peut pervertir, on peut trouver dans la Torah quand on lit faux avec mauvaise foi. Alors ici, la Gemara nous raconte que Sanhérif a dit, c'est Dieu qui m'a demandé comment, comment il est arrivé à ce truc. Maï, de Shama le Navi de Kamar. Sanhérif, il a entendu ce que le prophète a dit. Yan kima'as ha'amazé etmei ha'shiloach, puisque ce peuple a méprisé etmei ha'shiloach, l'eau qui coule de la source shiloach, ha'olchim la'at, qui coule doucement, ou mesos et retzin ou ben remaliaou. Il y avait deux rois juifs qui étaient des 10 tribus, retzin et ben remaliaou. Les deux, ils étaient pas bons, ils n'étaient pas religieux, ces deux-là. Ils étaient tordus. Mais le peuple a préféré Retzin et Ben Ramaliahu à la place de Mei Shiloach, à la place de l'eau de la source coule douce, Haolchim Laat. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le peuple a fait ça, c'est pour ça Dieu, il annonce aux 10 tribus que Sanhérif, malheureusement, il va venir prendre les 10 tribus. Amar Rabbi Yosef, Rabbi Yosef, il dit, il m'allait Targouma de Haïkra, si nous n'avons pas eu la traduction en araméen de ce verset, le Havayadan Maïka Amar. J'aurais pas pu compris ce qu'il veut dire le verset. Le verset, il est un peu caché. Ça veut dire quoi? Mei Hashiloach Haolchim Laat. Le peuple a méprisé l'eau du Shiloach qui marche doucement. Ça veut dire quoi ça? Alors, heureusement que dans le Navi, il y a un traducteur. Jonathan Benizel, il a traduit le Navi. Et cette traduction n'est pas seulement une traduction, c'est une interprétation, c'est un commentaire. Dans l'interbénisiel, il a mis un commentaire, un midrash. Ce sont des midrashim sur le Chumash. Rabbi Yosef dit, grâce à la traduction de Jonathan Benizel, je comprends le pshat. Sinon, je n'aurais même pas compris le pshat. Mais Khalaf, puisque de Katz Amahaden, que ce peuple se méprise, Malchut de Beit David, la royauté de la maison de David, la famille de David, de Madbar Lohon Benayach, qui conduit le peuple juif gentiment, Kemei Shiloucha, comme l'eau de la source Shiloach, de Nagdin Benayach, qui coule doucement, il y a une source qui s'appelle Shiloach, qui est à Yerushalayim, à l'auteur de Yerushalayim, et c'est eau gentiment. Cette eau-là, ça coule au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash aussi, il utilise cette eau. Dans la Hazara, ça rentre aussi cette eau-là. C'est de l'eau, gentiment, ça coule. La Malchut Beth David, la royauté David, est comparée à cette eau. Gentiment, David était gentil. Shlomo était gentil. Les rois de la famille de David, ils étaient des gentils. Les tzadikim, ils étaient gentils. Malheureusement, les 10 tribus, ils ne voulaient pas. Ils étaient contre Rahavam. Ils ont choisi d'autres rois. Ils ont suivi à la fin, à l'époque de Sennachérif, qui était le roi des 10 tribus, Retzin. Retzin, mais était le roi de Aram. Ben Remaliahu était un roi juif. Retzin, c'était le roi d'Aram. Eux, ils préféraient ces gangsters comme chef à la place de la famille de David. Ils se sont séparés pendant 300 ans de la famille de David, puisque cette famille a refusé des rois gentils, religieux, corrects. Ils ont choisi des gangsters. Et c'est pour ça, malheureusement, le prophète, il dit, un khérif va venir, il va les exiler. Alors, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan dit, Maï d'Echtiv, qu'est-ce que ça veut dire? Ma'erat Hashem bebet rasha. La malédiction de Dieu est dans la maison du voyou. Vonvei tzadikim yevorach. Et la résidence du tzadik, il y a une bracha dedans. La Gemara nous dit, Ma'erat Hashem bebet rasha. La malédiction de Dieu est dans la résidence du rasha. C'est Pekher ben Ramaliaou. Ça fait allusion à ce roi qui s'appelle Pekher ben Ramaliaou. Shaya Ochel, Mei Sa'a, Gozalot, Bekinuach Souda. Il mangeait 40 kilos des pigeons comme dessert. Enfin, façon de parler, bien sûr. Ce sont des allusions. Son repas était énorme. Il mangeait. Même pour le dessert, il a pris 40. Ça veut dire quoi? Il a un ventre qui mange, il n'est jamais satisfait. Il a un appétit. Impossible à le calmer, le gars. Alors, il s'agit peut-être d'un appétit de l'estomac, ou peut-être il s'agit d'un appétit global, un appétit, un insatisfait, il veut toujours plus et plus, parce qu'il y a une malédiction. Le bet rachat, c'est-à-dire ici, dans l'estomac du rachat, il y a une malédiction. On mange, on n'est jamais satisfait. On veut tzadikim yevorach, la résidence de tzadik est bénie. Zechiske melech Yehuda. C'est son père, le Chizkiya, le tzaddik, le roi Yehuda, il mangeait 1 kilo de légumes dans son repas et c'était suffisant. Il n'avait pas besoin de manger ni viande, ni dessert, ni ce truc. Il se contentait avec un petit repas et il était rassasié. Et l'autre, il était insatisfait. Mais la reine, la suite du verset, mais la reine, Dieu va conduire sur les 10 tribus l'eau du fleuve Hatsumim, puissant. La famille de David, c'était de l'eau gentille, une petite source d'eau gentille. Ça, c'est comparé le roi David, cette famille. Mais maintenant, ils ont méprisé ça. Je veux leur apporter un fleuve Hatsumim, puissant, Barabim, beaucoup, Iset Melech Hashur. Le roi Assouri les compare à un immense fleuve. Vetkol Kevodo, et tout son honneur de Sanhé, va venir avec toute son armée. Va'ala al-Kol Afikav, va'alach al-Kol Gedotav. Un fleuve qui va déborder, qui va tout emporter sur la route. Vektiv, après le verset, il dit, Vechalav Bihuda, il va passer à Yehuda, Shatav Ve'avar, Atzavar Yagia. L'eau, il va arriver jusqu'au cou. Vaya mutot kenafav melo rochav artzecha imanukel. Alors, la Gemara pose maintenant la question. Maïta me anesh. Pourquoi Sanhérif était puni? Si c'est vrai que le prophète, il avait prophétisé, que les 10 tribus, malheureusement, ils sont pas assez religieux, et le roi Sanhérif viendra pour leur prendre leur terre. Donc, il est vrai. Donc Dieu, il a bien été d'accord. Alors, si bien Dieu est d'accord, ton Sanhérib dit, moi, je viens avec la permission de Dieu. Dieu, il a dit aux 10 tribus que je viendrai. Eh bien, je viendrai. Donc, j'ai reçu la permission. Voilà, ici commence la perversion. Alors, pourquoi Bémet, il était puni, Sanhérib? Parce que Navi a Aseret HaShvatim it Navi. Le prophète, il a parlé pour les 10 tribus. Il a dit, les 10 tribus tomberont dans la main. Je donne la permission, ça répond dans les 10 tribus. Ihu, mais lui, Sanhérif, Yahiv Da'ate, Al-Kol Yerushalayim. Il a mis son intention sur tout Yerushalayim. Il voulait manger Yerushalayim aussi. Alors, la même chose, c'est Nebuchadnezzar aussi. Le texte dit, Hachem, il a dit, Yirmiyah, il a tout le temps dit, Nebuchadnezzar va venir, il va conquérir Yerushalayim. Et quand Nebuchadnezzar est venu, il a dit, je viens avec la permission de Dieu. Le prophète a dit. Après Yirmiyah, Navi, il a dit, Nebuchadnezzar sera puni terriblement. Et c'est la même question. Alors, il faut savoir, Dieu, il est d'accord ou il n'est pas d'accord. Il a dit, il va venir, donc il est d'accord. Ah, pourquoi il est puni? Alors, bon, cette question, la Rambam, il a déjà demandé sur Paro aussi. C'est Mélédie Abraham Avinu. Donc, il y avait une prophétie que les Juifs ils vont souffrir dans une terre qui ne leur appartient pas. Et après, venu Paro, il a réalisé cette prophétie. à la fin, Akeboukh le dit, Paro il sera puni. Et pourquoi Paro doit être puni? Mais voilà, c'était prévu. Ça, c'est le Kushya, le Rambam, il demande. Donc, il y a plusieurs réponses à cette Kushya. Le Rambam, il dit, Hachem n'a pas dit que c'est obligé d'être Paro. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Les Juifs, ils sont obligés d'être en exil dans un peu, chez un peuple. Mais ce n'est pas obligé d'être Paro. Donc, si Paro est venu, on n'a pas de permis à Paro. D'après cette réponse, on comprend cette Gemara très bien. Ici, le Passouk, il a dit que Sancher, il va venir. Donc la Gemara, elle a une bonne question. La Rahavad, là-bas, il dit, je ne comprends pas très bien la réponse de Rambam. Hachem n'a pas dit Paro, mais il a dit, il faut bien quelqu'un qui fait souffrir les Juifs. Alors, si Paro, il se propose, où est le problème? Il faut un qui le fait. Alors, moi, je fais ce qui le fait. Alors, la Rahavad, il dit, mais il a fait trop bien le travail. Il n'a pas fait ce qu'Hachem il a dit. Il a beaucoup exagéré. S'il aurait fait un minimum, c'est une chose, mais il a fait le maximum. Et ça, le prophète, il dit toujours sur Nebuchadnezzar aussi. Moi, je parlais d'un peu, et eux, ils ont ajouté beaucoup plus. C'est ce qu'ils ont ajouté montre que ce n'est pas pour remplir la volonté de Dieu qu'ils le fassent. Mais ils l'ont fait parce qu'ils étaient méchants. Donc, la même chose ici, le Maaseh chez Sanhérib. Le prophète, il a parlé des 10 tribus, mais lui, il est venu, les 10 tribus, il voulait Yerushalayim aussi. Alors, Ba Navi va Amarlo. Alors, le Navi, il a dit sur Sanhérib, il a ajouté quand il est venu sur Yerushalayim, ce qui n'était pas prévu dans la permission de Dieu. Ilomu af la chair Mutsakla. Alors, c'est pas sûr qu'il est très difficile à traduire. Bon, il y a des pshat là-bas, mais chaque mot il est difficile. Kilo mu'af. Mu'af, ça vient du mot ayef, fatigué. Kilo mu'af, la chair mutsakla. Il ne va pas fatiguer celui qui est angoissé. Ka'et harishon, comme le premier temps. Eikal arza, la terre est légère. Zvulun, ba'arza naftali, la terre de Naftali. Ve'acharon, et la dernière, Yichbit, c'est très lourd. Derech Hayam, la route de la mer. Ever Yarden, on passe le Yarden. Glil Hagoyim, Glil ou les terrains des Goyim, ou Galal, les excréments des Goyim. On va pas. Qu'est-ce que le prophète il est en train de nous raconter? Alors, il y a un pshat, mais la Gemara fait ici une dracha. Kilomu af, la chair Mutsakla. Amar Rabbi Lazar, Berberechia. Rabbi Lazar Abrech, il est traduit comme ça. En nimsar am ayef batora, beyadmi ameitziklo. Le peuple qui se fatigue dans la Torah ne sera pas transmis dans la main de celui qui l'agresse. Qui est-ce qui agresse Sanhérib? Il agresse qui? Yerushalayim. Mais Yerushalayim, il se fatigue dans la Torah, risque et l'ami, tous les Juifs à être d'étudier. Jour et nuit, les Juifs, ils ont étudié à son époque. Se fatiguer dans la Torah, eh bien, je ne permets pas Sanhérib. Kaet, Harishon, Heikal. Le premier temps, Heikal, Arz Zvulun, la terre de Zvulun, Arz Naphtali, les premières, c'était légère. C'est-à-dire, les Juifs qui habitaient dans la terre de Zvulun et de Naphtali, il s'agit de 10 tribus, chez eux, ça a été léger. Qu'est-ce qu'il était léger? La Torah, les mitzvot. La Torah et les mitzvot, ils étaient légers dans leurs yeux. C'est pour ça, Sanhérib, il avait le droit de les prendre. Le Acharon, Ichbit. Mais le dernier, la dernière bataille, c'est la bataille contre Yerushalayim. Ichbit, ça c'est une histoire lourde. Eux, ils sont lourds en Torah en mitzvot. Derech Hayam, traverser la mer, c'est les Juifs qui sont sortis d'Égypte, ils traversaient la mer. Ever Hayarden, ils traversaient les Ardennes, ça fait allusion aux Juifs. Quand ils sont rentrés en Israël, ils traversaient les Ardennes. Galil Hagoyim, alors les Gemara nous dit comme ça. Lokerishonim, Sheheikum Ol Torah. Toi, Sanhérib, tu te trompes, ne t'imagines pas que Yerushalayim est comparable aux Rishonim, à la première prise des Juifs que tu as pris, ceux-là, Sheheikum Ol Torah, qu'ils ont allégé le joug de la Torah. Acharonim, les derniers, ça veut dire Yerushalayim, Shirbidu alem ol Torah, ils ont pris une lourde charge d'études de Torah sur leur épaule. ורואין הללו לעשות להם נס, grâce à ça, je vais leur faire un miracle que Ovrei Hayam, comme ce peuple qui a passé la mer, les 600 000 juifs qui sortent d'Égypte, qui sont passés la mer, ou que Dorcha Yarden, comme les gens qui traversaient le Yarden, alors donc ça c'est un avertissement pour Sanhérif. Et cet avertissement, le prophète, il a envoyé à Sanhérif. Sanhérif, il a dit, je viens avec la permission de Dieu, le prophète, il a envoyé un message. Faux, tu te trompes. Je t'ai pas permis Yerushalayim. Et pourquoi faire indifférence? Dieu fait indifférence. Parce que les premiers n'étaient pas religieux, et c'est là qu'ils sont religieux. C'est là qu'ils se fatiguent dans la Torah. Im Choserbo, si Sanhérif changera d'avis et il va laisser son projet, Moutaf, c'est bien. Im Lav, s'il n'abandonne pas, Anieselo Glil Bagoyim, il va devenir l'excrément des nations. Je vais le détruire, cet homme-là. Le texte dit après, Achare Hadvarim, Vahamet Haele, après ces paroles et cette vérité, bah, Sanhérif Melech Ashur, Sanhérif le roi d'Ashur est venu, va Yavo Bihuda, il est venu sur Yehuda, va Yichana Harim Abetzurot, il a campé sur les villes fortifiées, va Yomer le Bikam Elav, et il a décidé de couper le mur pour les capturer. Alors la Gemara pose la question. Hai Rishne Lahai Pardashna, ça c'est le cadeau qu'on donne à ce maître. Quand le maître, il est gentil avec toi, toi, tu lui envoies un joli cadeau, mais tu ne vas pas lui donner une claque. Le passage qu'il dit, le prophète, il a dit, mais les Juifs, ils étudient à Yerushalayim. Alors, Sanhérif, arrête. Il ne faut pas attaquer Yerushalayim. Et qu'est-ce qu'il dit? Acharat varim va mettre Eile, après ses paroles, cette vérité, il est venu. Comme si ce qu'on a dit avant est la raison pourquoi il est venu. Or, c'est faux. Ce n'est pas parce que les Juifs et Tzadikim, il est venu. Ce n'est pas parce que, comme il a constaté, le prophète, il constate, c'est des Tzadikim, tu n'as pas le droit de venir. Or, voilà, maintenant je viens. C'est comme un patron est gentil avec toi. Alors, toi, à la place de donner un cadeau, tu lui donnes un claque. Ça, c'est le cadeau qu'on donne. Alors, la Gemara nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Amar Ravine, l'achar shekafat zakadesh baruch hu venishba. La vérité, c'est un serment que Dieu il a fait. Dieu il a juré. Qu'est-ce qu'il a juré? Amar, il a dit comme ça. Yamin le lechiz ki a maitin le sanhérif umasar ne le beyadech. Dieu il a dit comme ça. Comment je fais ma politique? Je voudrais amener Sanhérif et après je voudrais le détruire. Et là, il va se réjouir. Maintenant, est-ce que je le raconte ou je ne le raconte pas à Hiskia, mon projet? Je peux lui dire, tu sais, toi, Hiskia, je vais t'amener Sanhérif. Mais tu n'as rien à craindre parce que je vais te le débarrasser. Si je lui raconte ça, Hashta Amar, qu'est-ce qu'il va me dire? Je ne veux pas qu'il vienne, je ne veux pas qu'il me fait peur. Tu demandes à quelqu'un, je t'ai envoyé un bulldog sur toi, mais tu saches, dans la dernière deux secondes, je vais le hypnotiser, il te fera rien. Tu es d'accord ou pas d'accord? Mais tu peux dire, non, je ne veux pas. Je suis Mochel. Je n'ai pas besoin qu'il me fait terroriser. Mais je te garantis que les secondes avant la fait la pire, je les neutralise. Je ne veux pas. Je ne cherche pas des émotions fortes. Alors, la Kévoukhi dit, racontez à Christia, je lui amène Sanhérif, je le sauve. Il va me dire, je ne veux pas. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Miat, kafat, sakevoukho, manishma. Dieu, il a juré, de maïtin elé, je l'amène quand même. Et je ne lui demande pas de permission. Tac, je jure, je l'amène. Ça y est, maintenant, il est obligé d'amener. Et Christia, il avait peur. Et il a prié. Alors là, le nes, il est arrivé. Je n'aime ni Hachem, tsakot, les morts. Dieu, il a juré en disant, Imlo kasher dimiti, ken haïta. Comme je me suis imaginé, comme ça va arriver. Mon conseil m'a dit, il faut détruire Sanhérif. Il faut que ce voyou reçoive une punition. Itakum, mon conseil, mon projet doit se réaliser. Lishbor Ashurb Arzi, l'empire Assyrien doit se casser parti dans mon pays, en Eretz Israël, Valharai, Avousenu. Sur mes montagnes, Avousenu. Ils vont être comme un Eivos. Eivos, ça veut dire un mangeoire des animaux. Ça veut dire quoi, un mangeoire des animaux? Il a laissé une immense richesse. Ça a révélé, les gens, ils sont venus, ils étaient très riches avec beaucoup de richesses. Et toute cette richesse est tombée dans la main après de Chizkia. Le Sarmi Alehem Oulo. Le Sarmi Oulo, il va partir de lui Oulo son joug, mais sous Balo sa charge, Malchich Moyassour. De ses épaules, il va partir. Après dit, va Malchich. Sa charge va être enlevée de tes épaules, Oulo Malchich, son joug de son cou, Choubal Ol, Mipnechemen. Et le Ol, le joug, il va être détruit, Mipnechemen, à cause de l'huile. Alors, on verra après qu'est-ce que ça veut dire. Omer Rabbi Yochanan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qui vient sa chérif avec toute son armée? Il va devenir un mangeoire pour risquer à sa groupe. Son argent va tomber dans la main des tzadikim. Un système dans le monde qui a un moment où l'argent du rachat tombera dans la main du tzadik. Et l'autre verset. Les versets dans Yeshaya, Yassour Soubalo, Mal Shirmech, Voulo Mal Tsevrech, Choubal Olmi Pnechamen, Amar Rabbi Yitzchak Nafcha, Choubal Ol Shel Sancheirif, il va être détruit, le joug de Sancheirif, Pnechimno Shel Chizkia, grâce à l'huile du roi Chizkia. C'est quoi l'huile? L'huile de Chizkia a détruit le joug du roi de Syrie. Quelle huile? Réadolek, Bebate Knesiot ou Bebate Midrashot. L'huile qui brûlait dans les synagogues et dans les maisons d'études. Ça veut dire quoi? L'huile brûlait dans les maisons d'études. Pourquoi il faut de l'huile? Parce que c'est la nuit. Et pourquoi il faut de l'huile la nuit dans les Bet Knesset et Bet Midrash? Parce que les gens ils s'y trouvent. Mais ils font quoi là-bas? Ils étudient, ils prient, ils étudient. La nuit, oui, la nuit. Et le jour aussi. Le jour, il y a le soleil. Et la nuit, il y a la lumière. Les Juifs, ils étudiaient jour et nuit. Bah, ça, comment Chizkia, il a fait? Il a planté une épée à Peter Bet HaMidrash, sur la porte du Bet HaMidrash. Et Amar, il a dit, Kol Mishein Osek BaTorah, Yidaker Machelev. Celui qui n'étudie pas, il sera transpercé par l'épée. Bon, il ne faut pas prendre ça à la lettre. Un homme qui n'étudie pas, on ne le transperce pas avec une épée. Un klala, c'est-à-dire, il va recevoir un klala. Ceux qui ne se mettent pas à étudier, eh ben, je lui fais une malédiction. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a vu que les Juifs, ils étaient des ignares. Et pourquoi ils étaient des ignares? Parce que son père a fermé les Bate Knesiot et Bate Midrashot. Le père de Chizkia était Achaz. C'est Achaz, le Bate Knesiot ou le Bate Midrashot. Il a arraché, il a interdit. Le roi Achaz était un voyou. Il a dit, celui qui va étudier, je le massacre. Il ne voulait pas qu'on étudie. Les Juifs, ils avaient peur. Ils arrêtaient d'étudier. Bien sûr, il y avait des tzadikim qui étudiaient. Mais la masse avait peur de Achaz. Donc, ils ont instauré une ignorance, une génération perdue d'ignares. Quand Chizkia est devenu le roi, il a vu que les Juifs sont ignorants. Il a dit, on se met à étudier. Oui, non, mais monsieur le rabbin, on ne peut pas étudier, on a besoin de travailler. Vous, vous mettez à étudier. Mais comment on va faire? Vous étudiez, sinon je massacre. Oh, ça va, ça va, ça va. On va venir. Et ils sont tous venus, ils ont étudié. Bat Kumidan, Bat Beersheba. Ils ont vérifié depuis Dan, c'est le nord d'Eretz Israël, Dan, Beersheba, c'est le sud, Velomatsu, ils n'ont pas trouvé un ignare. Tout le monde y connaissait la Torah. Ils ont vérifié Migevet, Vat Antipras, ce sont deux villes, Velomatsu, Tinok, Vetinoket. Ils n'ont pas trouvé un garçon, une fille, Ishvisha, un homme, une femme, Shelo Hayubikim, Tahara. Ils n'étaient pas des connaisseurs des lois de Touma Vetara. Dans la Tanakh, c'est marqué. Dans le Sefer Melachim, dans Divrei Hayamim spécial, c'est marqué, il s'est mis Il a nommé des rabbanim pour que les gens ils étudient. Les gens, ils ont étudié. Alors, pourquoi c'est pile Sanhérif? Pourquoi c'est pile Chizkia? Pourquoi il a demandé à tout le monde d'étudier? Parce qu'il a vu la catastrophe de l'ignorance. Les 10 tribus sont parties en exil. 4/5 du peuple juif était perdu. Il restait 1/5. Et ce 1/5 était ignare. Il dit, ça ne peut pas rester comme ça. Il faut se mettre à étudier. Même les garçons et les filles connaissaient les lois de Touma Betahara. Val Oto Hador ou Amer. Sur cette génération, le prophète a dit, ce sera ce jour. Yechaye Ish Eglat Bakar ou Shteitzon. Il va faire vivre un homme. Eglat Bakar Veshtehatzon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils auront des animaux et les animaux, ils auraient pu aider à la vendange, mais ils n'ont pas vendangé. Pour labourer, ils n'ont pas labouré. Ils ne pouvaient pas. Il fallait étudier. L'Omer, la passouk, qui dit, Vaya, bayomahu, yé kol makom ashayi esham, elef gefen, be'elef kesef, le shamir ou le shaitier. Elef gefen. Il y a 1 000 vignes. Be'elef kesef, ça coûte 1 000 euros. Le shamir ou le shaitier, il va s'abîmer. Personne ne s'occupait. Puisqu'elle a interdit de travailler. Il a dit, c'est un moment de guerre. On veut nous détruire. On veut détruire le judaïsme. Quand il y a un danger que le judaïsme il se détruit, eh bien, on prend des résolutions graves. Quand il y a un danger, ce sont des autres. Alors, aujourd'hui, la Torah est en danger. En France, et avec le danger du corona, eh bien, on arrête tout. Eh bien, on arrête tout. La France a perdu 500 milliards. Eh bien, on a perdu 500 milliards. Maintenant, un danger, et un danger, un danger. Eh bien, c'est des autres. Normalement, il faut s'occuper, il faut travailler, il faut que tout le pays tourne, il faut que l'industrie tourne. Oui, mais maintenant, il y a un danger. Un danger, on reste à la maison. Qu'est-ce que Melech a dit? Notre génération, elle est spéciale. On est obligé d'étudier, et Dieu aidera. Afalpiche elef gefen, be'elef kesef, même que 1 000 vignes coûtaient 1 000 argent, le shemir le shaitier. Et le passage qui dit, Ve'usaf shlalchem, mais n'ayez pas peur, Usaf shlalchem, on va ramasser votre butin, Osef, Echasil, Kemashak, Gevim, Shokekbo. Ça veut dire, le prophète, il a dit, Dieu vous donnera la parnassa, n'ayez pas peur, il y aura un shalal, il y aura un butin, mettez-vous à étudier, l'argent va venir, la parnassa va venir. Alors, Osaf, Hassil, même le niveau d'Israël. Le prophète, il a dit aux Juifs. Qui c'est le prophète? C'est Yeshaya Navi. Aspush l'alchem. Vous pouvez ramasser le butin. À quel moment il a dit ça? On s'achère et puis se fait détruire. Et tout l'or et tout l'argent qu'ils amenaient, vous avez le droit de ramasser. Amourlo, ils ont dit, Livzoz, Olachlok. Chacun, il peut prendre ce qu'il veut, on doit le partager après. Marlehem que Osef et Chassil. Comme il ramasse le Chassil. Chassil, c'est le Arbé, les sauterelles. Ma Osef et Chassil, pour les Hadvechadatsbo, comme la sauterelle, chacun il prend pour lui. Avshalchem, pour les Hadvechadatsbo, chacun a le droit de prendre ce que tu trouves, c'est à toi. Donc, cette victoire, cette chute de Sennacherib, à payer aux Juifs toutes les dettes qu'ils avaient, la parnassa qui était difficile à un moment, ils ont pu rembourser tout. Amroulo, les Juifs, ils ont dit au prophète, va allons, maman, la serre ta choitim ouvra vos problèmes. Nous allons ramasser là de Sennacherib, de l'armée de Sennacherib. Cette armée, il y a aussi de l'argent juif. Pourquoi il y a de l'argent juif? Parce que Sennacherib, il a d'abord pris les 10 tribus. Ils sont enrichis grâce avec l'argent des 10 tribus. C'est de l'argent juif. Et les 10 tribus, ils ont aussi des héritiers. Il y avait des gens des 10 tribus qui habitaient avec les 2 tribus. Et les 2 tribus, ils sont en famille avec les 10 tribus. Donc, si on va faire un calcul, cet argent que j'hérite ici, c'est de l'argent juif. J'ai le droit de le prendre ou pas. Amar Lahem, le prophète, il a répondu. C'est comme une vague de la mer Ma gedim alal umal in etada metuma le tahara. Quand un homme y rentre dans la mer, il y a une vague qui passe dessus, alors il était au mikvé. L'eau de la mer, il y a des vagues qui viennent, ça monte et ça tombe sur l'homme. Ça le rend pur. Ah, mon âme chez l'Israël, comme ça l'argent juif, Ivan Shenafal biat of the Kechavim, miatiher. Quand c'est tombé dans l'armée d'un goy, tiher, c'est permis. Ça veut dire, les goyim qui ont fait une invasion et ils ont pris de l'argent juif, eh ben, un autre juif après qui retrouve cet argent, il a le droit de le prendre. C'est devenu hefker. Et en halakha, cet argent est devenu hefker. Et donc, l'autre juif après, il a le droit de prendre, il n'est pas obligé de rendre au premier. C'est tombé dans la main de goy, c'est tombé dans la main de goy. Et de Rav Papa. Ici, un girsa qui compare à Rav Papa. Et de Rav Papa, dans ma Rav Papa, Amon Moav, Tihar ou Besichon. Amon Moav, ils ont fait la guerre. Sichon, il a fait contre Amon Moav. Il a pris la moitié de la terre Amon Moav quand les Juifs sont venus, malgré qu'ils n'avaient pas le droit de prendre la terre d'Amon Moav. Mais comme Sichon avait déjà gagné la guerre, cette terre, la Jordanie, appartenait à Sichon, et de Sichon, on avait le droit de prendre. On n'est pas obligé de respecter la propriété d'Amon Moav autrefois. Donc, il y en a là un goy, un roi goy, un peuple goy qui fait une guerre contre un autre peuple. Il prend la terre. Moi, j'ai le droit d'acheter cette terre. Je ne suis pas obligé de le rendre au premier propriétaire. Alors, les Français, ils ont la terre d'où ils ont, les Gaulois, ils ont pris de qui de Hunes ou des Visigoths ou des Ostrogoths, je ne sais pas de qui ils ont pris. Et il y avait beaucoup de guerres. Autrefois, la France appartient à un autre peuple. Et eux, ils sont venus. Et quand c'est l'Italie, et l'Espagne, et l'Allemagne, partout, le monde entier, génération après génération, c'est tombé dans leurs mains. Donc, à Kadeshbourg, il a géré comme ça. Il y a un plan, je ne sais pas comment ça s'explique, peut-être le fait que si Akelbourg fait gagner à un peuple la guerre contre un autre, donc c'est dans le projet divin comme ça. On n'est pas obligé de considérer la terre comme le premier propriétaire. Non, elle appartient au conquérant. Et le business, on fait avec le conquérant, on peut prendre des cadeaux, on peut acheter, on peut s'installer, et je ne suis pas obligé de le rendre au premier propriétaire. Peut-être la raison de cette loi que la Torah a donnée, c'est pour la facilité, parce que sinon, un adabasov, c'est impossible. Voilà, tu as acheté aujourd'hui une maison en France. À qui appartient cette terre? Il y avait beaucoup de vols, il y a 100 ans, 300 ans, 700 ans, 1000 ans, 1500 ans, 2000, 3000, 4000, va savoir. Tu veux chercher le premier propriétaire? C'est très difficile, c'est impossible pratiquement. Donc la Torah elle dit, c'est fini, ça appartient au conquérant. Où le pshat il est, ça fait partie de l'Ashgecha d'Hashem. Quand Kadesh Baruch Hu fait gagner un peuple contre un autre, on dirait que ça fait partie du projet, que ce peuple a mérité de gagner, l'autre peuple a perdu, mais la Shemaim, ses shruyot n'étaient pas assez fortes, il a perdu la guerre, il a perdu la terre, maintenant ça appartient au conquérant. Et le goyim, c'était toujours comme ça. Et le goyim, la loi, on gagne, c'est fini. Sauf il y a un peuple que on leur, s'ils gagnent la guerre, malgré que les autres, ils ont commencé à gagner la guerre, on leur dit, vous n'avez pas le droit de prendre. Il y a un terrain dans le monde, au Proche-Orient, et toutes les nations, ils ont décidé qu'eux, ils n'ont pas le droit d'avoir la terre qu'ils ont pris. Malgré qu'ils l'ont pris, pas par une guerre, la majorité n'était pas prise par une guerre, et la partie qui était prise par une guerre était obligée par les autres. Mais eux, ils n'ont pas le droit. Comme ça, les goyim y pensent. Alors, où nous sommes? Choubal ol mipne shamen. Donc, c'est un grand yesod. Choubal ol mipne shamen. Quand le Torah il est en danger, Chizkia, il est dit, maintenant, on étudie. C'est comme Rabbi de Barabelaï. Rabbi de Barabelaï, la Gemara nous raconte, « Hayoshisha mitkassim betalit echad, v'oskim batorah. » Six personnes sont couverts avec une couverture, tellement c'était froid, mais ils avaient, un il a pris une demi-heure, après l'autre il a pris une demi-heure, l'autre a pris une demi-heure, parce qu'il a dormi un petit peu pour eux sous une couverture, mais on étudiait jour et nuit, pourquoi? Parce qu'il a été après la mort de 24 000 élèves de Rabbi Akiva, la Torah était en danger d'être oubliée, donc là, il a dit, maintenant on étudie, on s'occupe rien d'autre. Amar Avuna, Avuna il a dit, Esser Masaot Nasa Oto Rachab Oto Hayom. Quand sa chérif il est venu, il y a tout dans la Tanakh, un chérif il est venu, il a fait un voyage pour venir à Yerushalayim. Et il est passé à 10 endroits. Et les endroits que le Tanakh nous raconte, chaque endroit, il a une signification. La Gemara nous dit après, c'est en liaison avec le roi Shaoul. Il y a une histoire très profonde dans cette Gemara. Quand on lit cette Gemara, on va voir, ça prend un peu du temps. Mais on voit que dans la politique, dans les guerres, dans le monde, en tout cas ce qui concerne le clan d'Israël et autre chose probablement aussi, il y a des calculs très profonds. Ce n'est pas du tout comme les gens ici imaginent. Aujourd'hui, les gens, ils étudient la politique, c'est une vision. Pourquoi la Première Guerre mondiale et pourquoi la Deuxième Guerre mondiale et pourquoi lui, il a gagné, à quel moment il a gagné et pourquoi, et quels ont été les moyens et les analyses et tout, les politiciens, ils savent toujours. Ils croient qu'ils savent tout, ils comprennent tout. Oui, ils comprennent pas tout, ils connaissent une partie. Mais en tout cas, ils croient que ceux qui comprennent, ils comprennent. Dans la Gemara, on voit qu'il y a d'autres calculs dans les guerres. La guerre, c'est assez mishmilchama, c'est Dieu qui fait les guerres. Et ce sont des vieux calculs, des très, très vieux calculs, qui peuvent revenir à des siècles avant. Des siècles avant. C'est qu'il y a des redistributions. Des événements qui se sont passés beaucoup avant, des mitzvot, des averot, des shruyot, elle arrive à un moment où Dieu intervient dans l'histoire. Il va faire un règlement pour réglementer des choses qui étaient tordues il y a 4 siècles en arrière. Ça, c'est dans la Torah, ça marche comme ça. Et il y a quelqu'un qui sait comment on fait ces calculs. Ça va, c'est lié avec le fait qu'il goule, que les personnes qui sont aujourd'hui, ils étaient déjà une fois ici. Ils étaient peut-être 2 fois ou 3 fois ici, dans un autre siècle. Et dans un autre siècle, ça tournait autrement. Où ça a été, maintenant il faut une redistribution. Les gens ne savent pas comment ça marche, les prophètes, ils savent. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'il marquait ici dans le verset? Le passage qu'il dit, Ba al-Ayat. Donc, Sanhérif, il est venu. D'où il est venu? De son pays, c'est la Syrie, c'est la ville de Ninive. Ninive, il y en a qui disent c'est à côté de Mossoul, ou c'est Mossoul, ou à côté de Mossoul, il y a une ville Ninive, pas loin de Mossoul. Mossoul, c'est au nord de l'Irak. Donc il est venu de nord de l'Irak jusqu'à Yerushalayim. Donc il voyageait de Mossoul, l'Irak, après la Syrie, il est venu vers Yerushalayim. Et avant de venir vers Yerushalayim, le Passouk, il est arrivé en Eretz Israël. Le Passouk, il raconte plein des passages, des villes où il est passé. On ne sait pas très bien pourquoi la Torah nous raconte ça, pourquoi le Tanakh nous raconte. Mais après, dans la Gemara, on verra, il y a ici une signification. Le texte dit Ba al-Ayat. Il est passé dans la ville Ayat. Avar de Migron. Il est passé la ville Migron. Le Michmas, Yafkit Keilaf. Donc, quand il est arrivé dans la ville Michmas, Michmas, là où se passait la première guerre de Shaul HaMelech contre les Plishtim. Dans le livre de Shmuel, la première guerre que Shaul il a fait contre les Plishtim et qu'il a gagné, la grande guerre, ça c'est la raison pourquoi les Juifs ils ont demandé un roi. Les Juifs ils disent, Shmuel HaNevi, on veut un roi qui fait la guerre contre nous, pour nous, parce que les Plishtim nous embêtent toujours. Et la première guerre que malheureusement Shaul a fait une erreur, qu'il a commencé la guerre, il a fait le Corban avant que Shmuel il est venu, on verra après. Shmuel HaNavi, il a dit, attends 7 jours, et après je viens, je fais le Hola, après on va faire la guerre. Et Shaul n'a pas attendu, c'est pour ça qu'il a perdu la royauté. En tout cas, cette guerre, il s'est passé à Michmas. Et Michmas, Yafkit Keilaf, à Michmas, il a déposé ses armes. Avrou Ma'abara, il est passé à Ma'abara. Geva, Malon Lanu, Geva n'était pour lui l'hôtel. Harda, Rama, la ville Rama a tremblé. Rama, c'est quoi? Rama, c'est là où Shmuel Hanavi a habité. Autrefois, pas à l'époque de Sennacherib. Au moment de la première guerre de Shaul, il a pris tous les endroits que Shaul il est passé, il a pris le même chemin. Givat Shaul, il est passé par la colline de Shaul, Nasa. Tsahali Kolech Bat Galim, rejouis-toi, la fille de Galim. Aksivilaisha, Ania Anatot. Bon, à ce continuer, Nadeta Madmena, מדמין הסינות רבי לאלי פרטי ונגזיל, יושבי הגאיבי מייזו, עוד היום ביוב נעמוד, ונופף ידו הר בציון, גבעת ירושלים, אילה לובי לברא, אילה לנסה, שור ירושלים, גבעת ירושלים, ילדי שדטרי לבית המקדש. Ici, c'est la fameuse haftara qu'on lit toujours le huitième jour de Pessah, qu'on parle de l'histoire de Mashiach. L'histoire de Sanhérif, qui est venu sur Yerushalayim et qui voulait détruire le Beit HaMikdash. On avait déjà vu qu'Hachem il a voulu que Sanhérif sera Gog ou Magog, et qu'il sera Mashiach. Ça rentre bien dans le schéma. Et toutes les expressions que Sanhérif, il a levé les bras, il a dit « Meuse, c'est une petite ville, je la détruirai. » Ce sont les paroles que Gog ou Magog il dira aussi sur Yerushalayim, comment j'y arrive bien. Alors, on lit ça toujours le huitième jour de Pessah, la fameuse haftara du huitième jour de Pessah. Ça, c'est la suite de l'histoire de ce voyage que Sanhérif a fait. Alors, on va lire un petit peu. Bon, maintenant, il est déjà 6 heures. On va continuer avec Hashem demain.